Chapitre 4. Le secret d'une sœur. Dites-le-moi, Miss Walker, vous savez comment les choses devraient être. Quelle est, à votre avis, la profession qui conviendrait le mieux à un jeune homme de 26 ans, sans éducation qui vaille la peine d'en parler et qui n'est pas naturellement d'une intelligence très vive? Celui qui parlait ainsi, c'était Charles Westmacott, et l'entretien avait lieu ce soir même sur la pelouse du tennis, bien que l'ombre fût venue et que la partie eût été abandonnée. La jeune fille le regarda d'un air amusé et surpris. « Est-ce de vous que vous voulez parler ?»«
Justement. »«
Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire ?»«
Je n'ai personne pour me conseiller. Je crois que vous pourriez le faire mieux que personne. Je me sens plein de confiance dans votre jugement. »«
C'est très flatteur. » Elle leva de nouveau les yeux sur sa figure sérieuse, interrogative, avec ses yeux de saxon, sa moustache tombante d'un blond de filasse, en se demandant si par hasard il ne plaisantait pas. Au contraire, il semblait concentrer toute son attention sur la réponse.
« Cela dépend tellement de ce que vous êtes en état de faire, voyez-vous. Je ne vous connais pas assez pour pouvoir dire quelle faculté naturelle vous possédez. »
Il se promenait lentement sur la pelouse tout en prenant le chemin de la maison.
« Je n'en ai aucune. Je veux dire, aucune qui vaille la peine d'être citée. Je n'ai point de mémoire et je suis très lent à comprendre. »«
Mais vous êtes très fort. »
« Oh, si cela peut compter pour quelque chose. Je peux soulever une barre en fer de 100 livres et la tenir jusqu'au commandement. Mais quelle sorte de profession est celle-là ? »
Il vint à l'esprit de Miss Walker l'idée d'une petite plaisanterie à propos de la vocation du barreau, mais son interlocuteur avait l'air si sincèrement sérieux qu'elle maîtrisa son envie de badiner.
« Je peux faire 1 mille sur la piste à la craie en 4 minutes et demie, mais à quoi cela peut-il me servir ? Je pourrais être un professionnel du cricket, mais ce n'est pas une situation des plus considérées. Pour la considération, je m'en soucie comme d'un fétu, mais je ne voudrais pas blesser les sentiments de la vieille dame. »
« De votre tante ?»«
Oui, de ma tante. Mes parents ont été massacrés dans l'insurrection, vous savez, quand j'étais tout petit, et elle n'a cessé depuis lors de s'occuper de moi. Elle a été très bonne pour moi. Je suis fâchée de la quitter. »
« Mais pourquoi la quitteriez-vous ?»
À ce moment, ils étaient arrivés à la porte du jardin. La jeune fille s'appuya sur sa raquette en contemplant avec intérêt son gros compagnon en complet de flanelle blanche.
« C'est la faute à Browning, » dit-il.
« Quoi ?»«
Ne répétez pas à ma tante que je vous l'ai dit, » fit-il en baissant la voix jusqu'au chuchotement. « Je déteste Browning. »
Clara Walker lança un si joyeux carillon de rire qu'il oublia les souffrances que lui avait infligées le poète et éclata de rire lui aussi.
« Je n'arrive pas à le comprendre, » dit-il. « J'essaie, mais il est trop fort pour moi. Sans doute, c'est la faute à ma stupidité, ça, je ne le nie pas. Mais tant que je n'arriverai pas à y voir clair, il ne sert à rien de faire celui qui comprend. » Et alors, naturellement, cela l'offusque, car elle l'aime beaucoup, et elle se plaît à en lire tous les soirs à haute voix. Elle est justement en train de lire une pièce qui a pour titre « Au passage de Pipa ». Et je vous assure, Miss Walker, que je ne comprends pas même le titre. Vous devez me trouver terriblement bête.
« Mais sûrement, il n'est pas aussi intelligible que cela, » dit-elle par manière d'encouragement.
« Il est très dur. » Il y a par-ci par-là de belles choses, vous savez. Cette course à cheval de 3 Hollandais et Hervé Riel et quelques autres pièces, c'est très bien. Mais il y a une pièce que nous avons lue la semaine dernière. Au premier vers, ma tante a bronché, et il s'en faut beaucoup pour la faire broncher, car elle se tient bien à cheval.
C'était boss, et c'était boss, et c'était boss.
Voilà le vers.
On dirait une incantation.
« Non, c'est le nom d'un gentleman.
3 gentlemen, pensais-je, mais ma tante dit qu'il n'y en a qu'un.
Alors ça reprend.
S'imagine qu'il habite dans la lumière de la lune.
C'est un morceau très difficile. »
Clara se mit à rire. Il ne faut pas songer à quitter votre tante, dit-elle. Pensez combien elle serait isolée sans vous.
Eh oui, j'y ai pensé. Mais il faut vous rappeler qu'à tout prendre, ma tante n'a pas dépassé l'âge moyen et ferait un parti très sortable. Je ne crois pas que son aversion contre l'espèce humaine s'étende aux individus. Elle pourrait s'engager dans de nouveaux liens, et alors je serais une cinquième roue à la voiture. Cela allait très bien quand je n'étais qu'un petit garçon du vivant de son premier mari.
Mais, grand Dieu, vous ne voulez pas donner à entendre que Mistress Westmacott compte se remarier ?
Le jeune homme lui jeta un regard dont l'expression était interrogative.
Oh, ce n'est qu'une possibilité éloignée, vous voyez, dit-il. Mais enfin, en somme, cela peut arriver, et je serais bien aise de savoir à quoi je peux m'employer.
Je voudrais être en état de vous aider, dit Clara, mais vraiment, je suis bien peu au fait des réalités.
Je voudrais que vous le pussiez. Je serais si content si vous le pouviez.
Certainement, je le désire. Et maintenant, monsieur Westmacott, il faut que je vous dise bonsoir, car certainement, papa doit se demander où je suis.
Bonne nuit, Miss Walker.
Il ôta sa casquette de flanelle et s'en alla à lentes enjambées dans l'obscurité croissante. Clara s'était figurée qu'elle et lui étaient restés les derniers sur la pelouse, mais comme elle se retournait sur les marches qui conduisaient aux portes-fenêtres, elle aperçut deux silhouettes noires et mobiles qui se dirigeaient vers la maison. Elles se rapprochèrent et elle put reconnaître que c'était Harold Denver et sa sœur Ida. Le murmure de leur voix monta jusqu'à son oreille, suivi bientôt du petit rire musical, enfantin, qu'elle connaissait si bien.
« Comme je suis enchantée !» disait sa sœur. « Je ne m'en doutais pas. Vos paroles ont été pour moi une charmante surprise. Oh, que je suis contente !»«
Est-ce vous, Ida ?»«
Oh, voici Clara. Il faut que je rentre, monsieur Denver. Bonsoir !»
Encore quelques mots à mi-voix, un rire d'Ida et un « Bonne nuit, Miss Walker !» partant de l'obscurité. Clara prit la main de sa sœur et elles franchirent ensemble la haute porte-fenêtre. Le docteur était rentré dans son cabinet et la salle à manger était vide. Une seule petite lampe rouge, placée par la servante, se réfléchissait une dizaine de fois sur l'argenterie qui s'y trouvait et sur l'acajou du meuble, bien que sa mèche unique et faible ne répandît qu'une lueur vague dans l'obscurité de la vaste pièce. Ida allait d'un pas léger vers la grosse lampe du centre, mais Clara lui mit la main sur le bras.
« Je préfère cette lueur paisible, dit-elle. Pourquoi ne ferions-nous pas un bout de causerie ?»
Elle s'assit dans le vaste fauteuil de peluche rouge du docteur et sa sœur s'accroupit à ses pieds sur le tabouret, jetant sur son aîné un regard accompagné d'un sourire et avec une expression espiègle dans les yeux. Il y avait sur la figure de Clara une ombre d'anxiété qui se dissipa dès qu'elle eut jeté un regard sur les yeux bleus pleins de franchise de sa sœur.
« Avez-vous quelque chose à me dire, ma chère ?»
Ida fit une légère moue et haussa les épaules.
« Le solliciteur général exposa ainsi les motifs de poursuite, dit-elle. Vous allez donc me faire subir un interrogatoire en règle, Clara. Ainsi donc, ne le niez pas. Je vous prie de faire couper votre foulard de satin gris. En l'arrangeant un peu et avec une nouvelle taille blanche, cela aurait l'air presque neuf, et tel qu'il est, il vous engonce réellement.
Vous êtes resté bien tard sur la pelouse, dit l'inexorable Clara.
Oui, assez tard en effet, mais vous aussi. Avez-vous quelque chose à me dire ?
Et elle repartit d'un éclat de son rire musical.
Je causais avec monsieur Westmacott.
Et moi, je causais avec monsieur Denver.
À propos, Clara, dites-moi franchement ce que vous pensez de monsieur Denver. Vous plaît-il ? Dites, de bonne foi, maintenant.
Je le trouve tout à fait à mon gré. Je le regarde comme un des jeunes gens les plus accomplis, les plus modestes, les plus virils que j'ai jamais connus.
Eh bien, maintenant, ma chère, n'avez-vous rien à me dire ?
Clara lissa d'un geste maternel la chevelure dorée de sa sœur et se pencha pour saisir la confidence attendue.
elle ne pouvait rien souhaiter de mieux que de voir Ida épouser Harold Denver, et d'après les paroles qu'elle avait surprises ce soir-là, quand ils avaient quitté la pelouse, elle ne devait pas douter qu'il n'y eût quelque entente entre eux. Mais nulle confidence ne sortit des lèvres d'Ida. Elle ne montra que le même sourire malicieux, la même lueur de contentement dans la profondeur de ses yeux bleus. « Cette grande toilette en foulard » commença-t-elle. « Oh, petite taquine, allons maintenant, je vais vous faire la question que vous m'avez faite. Harold Denver, vous plaît-il ? Oh, quel charmant garçon ! Ida ! Eh bien, vous m'avez interrogé, voilà ce que je pense de lui. » Et maintenant, ma bonne vieille curieuse, vous ne tirerez de moi rien de plus. Il vous faudra attendre sans vous montrer trop empressée. Je m'en vais voir ce que fait papa. » Elle se releva, jeta ses bras autour du cou de sa sœur, lui donna une dernière accolade et partit. Un cœur d'Olivette, chanté par sa voix pure de contralto et que l'éloignement rendait de plus en plus faible, finit par le bruit d'une porte à quelque distance. Miss Clara Walker resta assise dans la pièce faiblement éclairée, son menton dans sa main, ses yeux rêveurs perdus dans l'obscurité croissante. C'était son devoir à elle, grande fille, de remplir la tâche de la mère, de guider une autre dans les sentiers qu'elle-même n'avait point parcourus. Depuis la mort de leur mère, elle n'avait pas eu une seule pensée pour elle-même. Toutes avaient eu pour objet son père et sa sœur. Elle se croyait fort laide et elle savait qu'elle avait souvent peu de grâce dans ses façons, alors qu'elle désirait le plus en montrer. Elle voyait sa figure telle que son miroir la lui présentait, mais elle n'y voyait pas la mobilité d'impression qui en faisait le charme, cette infinie tendresse, cette sympathie, cette douce féminité qui lui attirait tous ceux qui souffraient du doute ou de quelque peine, de la même façon que ce pauvre Charles Westmacott, cet être aux lourdes allures, avait été attiré ce soir auprès d'elle. Sa place, celle qu'elle s'assignait elle-même, était en dehors de l'amour. Mais il en était tout autrement d'Ida, la joyeuse petite Ida, avec son esprit vif et sa figure rayonnante. Elle était faite pour l'amour, mais elle était jeune et innocente. Il ne fallait pas la laisser s'aventurer trop loin sans aide dans ces eaux dangereuses. Il y avait une certaine entente entre elle et Harold Denver. Et Clara était, au fond du cœur, ce qu'est une excellente nature de femme, elle était marieuse. Elle avait choisi Denver comme celui de tous les hommes auxquels elle pourrait, avec le plus de confiance, donner Ida. Il avait plus d'une fois causé avec elle sur les choses sérieuses de la vie, sur ses ambitions, sur ce que pouvait faire un homme pour rendre le monde meilleur. Elle le savait homme de noble nature, d'un esprit élevé, d'un caractère sérieux. Et pourtant, elle n'approuvait guère ce secret, ce mauvais vouloir, de la part d'une créature aussi franche, aussi honnête qu'Ida, à lui dire ce qui se passait. Elle attendrait, et le lendemain, si elle en trouvait l'occasion, elle amènerait Harold Denver lui-même à aborder ce sujet. Il était possible qu'elle apprît de lui ce qu'elle n'avait pu se faire confier par sa sœur.